Le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Une candidature de plus à gauche. Christiane Taubira officiellement candidate à l'élection présidentielle. Le Parti Socialiste déplore cette candidature qui divise la gauche. Jean-Luc Mélenchon réagit avec beaucoup de détachement. Une déclaration qui fait scandale. Éric Zemmour s'est attiré les foudres du gouvernement et de la classe politique. Après avoir dénoncé l'obsession de l'inclusion des enfants handicapés à l'école, ce soir Éric Zemmour nuance ses propos. Un centre de vaccination rouvre ses portes aujourd'hui à Paris, jour de la date butoir pour la dose de rappel et pour conserver le pass sanitaire. Pour certains retardataires, il y avait urgence. Dans ce journal également, les championnats d'Europe de handball, Ukraine-France en ce moment et les Bleus mènent au score. Et puis, ma vie connectée consacrée ce soir à la pollution numérique. La météo, humide au nord, ensoleillé au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Elle avait promis de clarifier sa position mi-janvier. C'est fait. Christiane Taubira se lance et annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Une candidature de plus à gauche qui divise le camp de la gauche, déplore Patrick Mennucci, membre de l'équipe de campagne de la candidate socialiste Anne Hidalgo. À Nantes, où Jean-Luc Mélenchon est en pleine répétition pour demain et son meeting immersif et olfactif, le candidat de la France Insoumise a réagi avec une certaine indifférence à la candidature Taubira.
Elle est très sympa, c'est comme femme, tout ça, comme militante, c'est quelqu'un qui est assez battant. Hein. Non, moi, ça m'inspire rien. Qu'est-ce que je vous dis, je ne suis pas concerné. Elle est candidate, elle a bien le droit. Elle est soutenue par le PRG, comme en 2002. Ce n'est pas une catastrophe ou un je ne sais pas quoi. Alors après, évidemment, dans la palette du centre-gauche, ils s'agitent parce qu'ils sont concurrents, les trois. Hein. Hidalgo, Jadot et elle, mais moi je ne suis pas vraiment concerné. Comme j'ai dit que si j'arrivais au deuxième tour, je demanderais à ceux qui veulent assurer une majorité avec moi et gouverner d'entrer en dialogue avec moi. Ça, j'ai pris cet engagement, n'est-ce pas ?
Elle fera partie au second tour des gens auxquels vous passerez des coups de fil.
Évidemment, j'appellerai le PRG, puisque c'est PRG qui organise ça. Elle aussi, bien sûr, il faut être respectueux des gens.
Jean-Luc Mélenchon avec Laurence Perron est toujours au chapitre politique ce week-end. Une déclaration d'Éric Zemmour fait scandale sur la scolarisation des enfants handicapés. Éric Zemmour s'est attiré de vives réactions après avoir dénoncé hier l'obsession de l'inclusion des enfants handicapés et défendu des établissements spécialisés pour les scolariser avant de nuancer ses propos. La gauche, la droite, l'extrême droite et le gouvernement condamnent des paroles pitoyables et impardonnables. Élodie Forêt.
Très remontée, la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel, sur France Info. Elle dénonce une vision excluante.
C'est l'inverse d'une société inclusive qui fait la place à toutes ces différences. C'est honteux, c'est inacceptable. C'est terrible d'avoir une vision de la société comme ça, qui monte les uns contre les autres en permanence.
Choqué aussi, Damien Abad, le patron des députés LR, lui-même handicapé, a dénoncé la ségrégation à tous les étages voulue par Éric Zemmour. C'est impardonnable, a aussi tweeté Marine Le Pen, candidate du RN, obligeant Éric Zemmour à nuancer sa pensée à chaque enfant. Il faut donner la solution qui lui correspond, dit-il, répétant que l'inclusion n'est pas forcément le bon choix. A raison, selon Agnès Marion, ex-RN, soutien du candidat et maman d'un enfant porteur d'un handicap.
Ce que demande Éric Zemmour, c'est ce dont ont besoin ces enfants-là. C'est des solutions qui sont adaptées, qui sont personnalisées, qui sont souples. C'est ça dont les enfants ont besoin, en fait. Ils n'ont pas besoin d'une idéologie inclusive qui, à mon avis, aussi cache parfois l'abandon des écoles spécialisées. Moi, je ne veux pas qu'on instrumentalise mon enfant pour une cause politique.
Agnès Marion qui dénonce le coup politique des adversaires d'Éric Zemmour, qui a aujourd'hui écourté sa visite dans l'Aisne, officiellement, sans que ça n'ait de lien avec la polémique.
Oui, ce soir, Éric Zemmour dénonce des propos détournés. Certains politiciens ont été jusqu'à faire croire que je voulais exclure les enfants handicapés des écoles ordinaires. Quel mensonge, dit ce soir Éric Zemmour. Marine Le Pen, de son côté, est en conflit avec le Louvre. Marine Le Pen a diffusé aujourd'hui son clip de lancement de campagne, une vidéo dans laquelle la candidate du RN est filmée devant la pyramide du Louvre, ainsi que dans l'enceinte de la cour Napoléon. Le musée du Louvre rappelle que toute utilisation de l'image de la pyramide doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Et on apprend à l'instant qu'une enquête administrative sur la secrétaire d'État Nathalie Elimas vient d'être ouverte. Elle est accusée de harcèlement dans son cabinet. La lutte contre l'épidémie de coronavirus avec le pass vaccinal et le texte qui doit être à nouveau examiné au Sénat dans la soirée après son adoption la nuit dernière à l'Assemblée concernant le pass sanitaire maintenant à compter d'aujourd'hui. Toutes les personnes majeures n'ayant pas reçu leur dose de rappel dans les temps verront leur pass sanitaire désactivé et pour faciliter la vaccination et la dose de rappel, un centre a rouvert ses portes aujourd'hui à Paris sur le parvis de l'hôtel de ville. Bonsoir Elia Bergel.
Bonsoir.
Et pour certains, le rappel devenait urgent pour conserver ce pass sanitaire. Et
c'est le cas d'Amira Zarouk, elle est venue exprès des Hauts-de-Seine. La jeune femme patiente sur une chaise après son injection et pour elle, c'était moins une.
Dernier délai, c'était aujourd'hui, du coup j'ai refait. J'avais pas de créneau avant, ça fait deux semaines que j'essaie d'avoir un créneau et j'ai réussi à avoir un rendez-vous.
Maxime, lui aussi, repasse par la case piqûre en dernière minute pour garder son pass.
C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui.
Vous, votre pass est valable jusqu'à quand ?
Jusqu'à aujourd'hui. Dernier moment. Pour travailler, obligé de l'avoir. Sinon, il faut se faire tester tous les jours.
Obligé, car Maxime travaille dans la restauration, secteur où les professionnels doivent être vaccinés. C'est Lorraine Radon, étudiante en dernière année de pharmacie, qui se charge de l'injection.
Le numéro de lot, 214-028. On va désinfecter votre épaule. Vous allez rien sentir. Voilà, c'est fini.
La plupart des gens qu'elle vaccine le font pour profiter des avantages que procure le pass sanitaire. Mais Françoise, elle, vient de recevoir son rappel avant tout pour éviter de faire une forme grave du Covid-19.
C'est un objectif de citoyenneté, d'essayer de penser un peu collectivement. En se protégeant, on protège tout le monde et on fait en sorte que le pays puisse avoir une vie à peu près normale.
Et ce centre peut vacciner jusqu'à 1500 personnes par jour, une capacité qui pourra doubler si nécessaire, indique la mairie de Paris.
Elie Abergel, merci. Une avancée considérable dans la recherche contre la sclérose en plaques. On savait que le virus dit virus d'Epstein-Barr était impliqué dans la maladie, mais une étude américaine sur le sujet qui vient d'être publiée dans Science établit clairement son rôle de détonateur dans le déclenchement de la maladie, tout en restant prudente. L'étude pourrait faire date et avoir des conséquences majeures dans la lutte contre cette maladie auto-immune et qui touche 100 000 personnes en France, Véronique Julia.
On connaît depuis déjà un certain temps le lien entre le virus d'Epstein-Barr et la sclérose en plaques. Ce virus, 95% de la population y a été exposé, mais sur la plupart des gens, il est resté inoffensif. En revanche, avoir fait une mononucléose et donc exprimé ce virus de façon très symptomatique au début de l'âge adulte est un facteur de risque. Chez les malades, on a retrouvé des particules virales dans le cerveau et davantage d'anticorps dirigés contre Epstein-Barr. On avait donc jusqu'à présent un faisceau de présomption. L'étude américaine va plus loin et tout en restant prudente, elle tente à prouver que c'est ce virus qui constitue la allumette. Les chercheurs ont disposé, il faut le dire, d'une base de données incroyable. 10 millions de soldats, régulièrement soumis à des tests sanguins pendant 20 ans. Le professeur Patrick Vermersch est neurologue au CHU de Lille. Il est emballé par les résultats.
De manière très significative, un certain nombre ont contracté le virus et un certain nombre après qu'on fait une sclérose en plaques. C'est ça qui est intéressant. C'est la chronologie des événements qu'on n'avait pas avant. Ce qui nous manquait, c'est des liens temporels. Deuxième point fort, chez ces patients qui allaient faire une sclérose en plaques après, il y a eu assez rapidement une souffrance neuronale. En gros, il y a deux maillons supplémentaires à l'histoire.
Deux maillons nouveaux qui devraient être de nature à convaincre les laboratoires d'investir dans un vaccin contre ce virus. On le cherche depuis des années sans le trouver. Mais un tel vaccin administré durant l'enfance pourrait peut-être réduire le risque de déclarer une sclérose par la suite. Moderna est sur le coup avec son vaccin ARN. Un essai clinique vient de démarrer.
Au Royaume-Uni, à chaque jour sa révélation avec maintenant des apéros du vendredi qui allongent la liste des scandales visant Boris Johnson. Le Daily Mirror révèle aujourd'hui que les employés de Downing Street organisaient des apéritifs tous les vendredis soirs, une tradition de longue date mais qui s'est poursuivie pendant le confinement. Et selon le journal, le Premier ministre britannique était au courant de ces rassemblements englués dans un party gate. Boris Johnson semble perdre chaque jour un peu plus en crédibilité et en popularité, Laura Calmus.
Il doit partir, c'est dans l'intérêt national. Ce sont les mots du chef de l'opposition cet après-midi au sujet du Premier ministre. Et au sein même de son parti, de nombreux députés conservateurs lui ont déjà tourné le dos. Certains estiment qu'il a perdu son autorité et ne peut plus diriger le pays. D'autres attendent les résultats d'une enquête interne. La presse a déjà révélé une dizaine de fêtes et pots de départ qui ont eu lieu à la résidence du Premier ministre en plein confinement. Le Daily Mirror a même publié la photo d'un réfrigérateur acheté par les employés de Downing Street pour garder leurs bouteilles d'alcool au frais pour les apéros du vendredi soir. Selon le tabloïd, la pratique était connue du Premier ministre qui encourageait son personnel à relâcher la pression après des semaines chargées. Hier, Downing Street a dû présenter des excuses au palais de Buckingham car deux fêtes ont eu lieu sans le Premier ministre mais la veille des funérailles du prince Philippe alors que le pays était en deuil national et que les rassemblements en intérieur étaient interdits. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Le championnat d'Europe de handball maintenant et l'équipe de France masculine affronte en ce moment en Hongrie l'équipe d'Ukraine en tour préliminaire. L'Ukraine, a priori, l'adversaire le plus accessible du groupe. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Fabric.
En direct de Szeged en Hongrie. Et les Bleus mènent au score, ils sont devant.
Oui, tout à fait, avec une large avance, 24 pour les tricolores, 17 pour les Ukrainiens. On savait que cette équipe d'Ukraine, notamment sur un point de vue défensif, était beaucoup moins forte que l'équipe de Croatie que les Français ont battu lors du premier match il y a deux jours. Encore fallait-il le faire. Et surtout avec une équipe de France remaniée. Guillaume Gilles, le sélectionneur tricolore, avait annoncé qu'il ferait tourner pour ce deuxième match. Il a notamment laissé au repos Nicolas Karabatic, 37 ans, toujours maître à jouer de cette équipe française, pour mieux le conserver avant le dernier match, hein, lundi, de ce premier tour qui pourrait être une finale de ce tour préliminaire contre la Serbie. Et pour l'instant, ça paye puisque des jeunes joueurs qui sont entrés dans cette équipe de France, notamment, ont réussi leur apparition, comme Thibaut Briet qui découvre la compétition internationale, qui a marqué 3 buts en 3 tentatives pour le joueur qui évolue à Nantes. Et puis une équipe de France qui déroule, qui met de 7 buts à moins de 14 minutes de la fin de cette partie. Ça s'annonce plutôt bien. Et si les Serbes battent les Croates derrière, eh bien la France s'en même qualifiée directement pour le deuxième tour.
Merci Jean-Pierre Blimont, direct de Hongrie et les Bleus qui mènent donc de 7 buts. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine Siméone.
Bonsoir.
Alors vous vous êtes intéressée à la pollution par le numérique et aux solutions possibles. Peut-on avoir un numérique responsable en 2022, Christine ?
Il le faudrait de toute urgence car le numérique représente entre 4 et 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La moitié de cette pollution est générée par la fabrication des appareils et un bon quart de cette pollution par le refroidissement de millions de data centers. Se contenter de trier sa boîte mail, de limiter le streaming, de réparer ses smartphones ne va pas suffire. Il faut passer à la vitesse supérieure et là ce ne sont plus les consommateurs qui seront en première ligne. Vincent Courboulet est cofondateur de l'Institut du numérique responsable et il estime que les élus, les administrations, les entreprises ont un rôle à jouer. Et parmi les idées avancées, par Vincent Courboulet notamment, il y a celle d'imposer une consigne pour nos appareils.
Moi, je sais que je pousse pour le retour de la bonne vieille consigne. On pourrait tout à fait, au niveau national, mettre en place une consigne au niveau du numérique. Ça permettrait, en appui de l'économie sociale et solidaire, d'obliger les gens, de façon assez naturelle, à ramener leur matériel pour éviter qu'ils croupissent dans leur tiroir.
Obligé à la consigne, cela permettrait d'organiser une filière de réparation beaucoup plus vaste que ce qui existe aujourd'hui et remettre sur le marché un plus grand nombre d'appareils.
Alors seulement 5% des appareils dans le monde sont recyclés. Cela relève effectivement d'une décision collective à l'échelle d'un marché ou d'un pays. Mais au-delà du matériel, est-ce qu'on pourrait agir autrement et plus globalement sur les pratiques des consommateurs ?
On pourrait aussi se rapprocher d'un principe pollueur-payeur. Pourquoi est-ce que les fournisseurs d'accès numérique ne proposeraient-ils pas des tarifs progressifs selon l'utilité des consommations ?
Je pense que la donnée devrait faire l'objet d'un tarif progressif en disant, ben voilà, vous êtes un Français, ben vous avez droit à tant de gigaoctets de consommation par mois qui correspond à votre usage des services publics, de l'accès à l'information et de l'accès à la pédagogie, par exemple. Et puis après, vous avez une tranche dans laquelle vous êtes plutôt sur du loisir, le streaming, la musique, etc. Et puis au-delà d'un certain seuil, on est plutôt sur de la consommation vidéo massive. Là, on est plutôt sur du luxe. Pour moi, ces données-là n'ont pas la même valeur monétaire et je pense qu'il faudrait avoir une solidarité nationale et faire en sorte que y ait une répartition plus juste du coût, un peu comme pour l'impôt, hein, un tarif progressif comme un impôt progressif.
Gratuit pour l'essentiel donc, mais beaucoup plus cher pour le superflu. Tout cela peut paraître extrêmement idéaliste, mais ce sont en tout cas des idées à mettre sur la table. Et justement, l'Institut du numérique responsable que dirige Vincent Courboulet plaide pour la tenue d'états généraux au niveau européen.
Christine Siméone, Ma Vie Connectée, retrouvée sur franceinter.fr. La météo dans un instant.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
À nouveau, 2 poids, 2 mesures demain au niveau du temps sensible, avec une journée baignée par le soleil du sud de la Bourgogne-Franche-Comté au Limousin et à la Gironde, en descendant vers les Pyrénées et la Méditerranée. Mais plus haut, il faudra composer avec une ambiance beaucoup plus grise et même souvent maussade le long de la Manche où le vent sera sensible. En fin de nuit, si l'on excepte les côtes de la Manche, la Corse et la côte d'Azur, les gelées seront fréquentes, vers moins 2 degrés par exemple sur la région parisienne et la Champagne, moins 4 à Limoges, Besançon et Strasbourg, moins 5 en Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes. Autant dire que les brouillards formés un peu partout seront givrants. L'après-midi, mis à part sur la façade océanique et près de la Méditerranée, où les températures vont atteindre 12 à 14 degrés, sur les autres régions, il faudra souvent diviser la note par deux.
Jean-Michel Golinski de Météo France.